très précieux, donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J.
Bonjour à tous, il est 9h, bienvenue sur Radio J en ce mercredi 15 mai. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et tout de suite je vous donne le programme.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Et le programme pour cette heure à venir, c'est d'abord avec l'air du temps à 9h10, où nous parlerons de l'actu culture de Maya Brodsky. Elle nous parlera concert, mais également une expo virtuelle pour Israël. Je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure à 9h10. Et puis à 9h35, notre rendez-vous des livres et des enfants, c'est avec Nathalie Zilberman. Et là, le thème de ce mercredi, ce sont les adolescents. Les adolescents, précisément, qu'est-ce qui les intéresse dans les livres? Eh bien, nous verrons cela avec elle. Et puis à 9h45, enfin, les pieds sur terre, on parle environnement. Tous les mercredis avec Jean-François Strouf. Et là, nous nous intéressons à Israël avec la reconstruction depuis le 7 octobre, une reconstruction environnementale évidemment.
Léa Moscona.
Radio J.
Mais tout de suite, c'est le journal et l'essentiel de l'information présenté par Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de l'actualité en Israël, le 222e jour de guerre contre le Hamas et la mort d'un soldat annoncée ce matin.
Et oui, le 122e jour de guerre donc et la mort annoncée ce matin du sergent Ira Yair Ginspan, 19 ans, tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza. 14 soldats de Tsahal ont aussi été blessés hier, dont 4 grièvement dans des combats, la conséquence d'une fusillade avec des terroristes pour 8 d'entre eux. Par ailleurs, un soldat de la brigade Givati a été grièvement blessé et 5 autres plus légèrement dans l'explosion d'un engin à Rafah dans le sud et dans le centre de la bande de Gaza. C'est un centre de commandement du Hamas qui a été frappé à Nouserat dans un raid aérien d'Israël, centre qui se trouvait dans une école de l'UNRWA. Cette nuit, Tsahal a intercepté 2 drones venus de l'Est. Ils ont pu être abattus avant de franchir la frontière.
Et selon Tsahal, il y a aussi des otages dans la région de Rafah.
C'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'est de Rafah. Selon le contre-amiral Daniel Agari, les opérations sur place à Jabalia et Zeytoun également ont permis d'éliminer plus de 100 terroristes. Lors de cette conférence de presse donnée depuis Kerem Shalom, le porte-parole de Tsahal a aussi évoqué les 10 tunnels terroristes localisés depuis le début de la semaine dernière.
L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza.
C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression que sur des normes internationalement reconnues, c'est-à-dire reposant sur une intentionnalité de détruire tout un peuple. Des déclarations qui font suite à une remise au point de 2 organismes de l'ONU, comme nous l'explique l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada.
Ils ont publié tous les deux des rectificatifs sur le nombre des victimes à Gaza. Certaines statistiques sont divisées par 2 et même par 3. Et surtout, ils confirment que l'immense majorité des victimes de Gaza ne sont ni des femmes ni des enfants. Ce qui revient à confirmer que nous traquons et nous éliminons essentiellement des terroristes du Hamas.
C'était donc Daniel Saada, l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Toutes ses chroniques sont à podcaster sur radioj.fr. Et de son côté, Washington a aussi informé le Congrès de la livraison de nouvelles armes à Israël, armes défensives pour faire face aux menaces qui l'assaillent.
Actualité en France, le mur des justes du mémorial de la Shoah a vandalisé à Paris. Des mains rouges y ont été taguées. Une plainte a été déposée.
Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens, notamment à Sciences Po, est mise en cause pour leur connotation liée au lynchage de 2 soldats de Tsahal en 2000. Condamnation d'Emmanuel Macron de ces tags, dégrader le mur des justes parmi les nations, barrage des lumières contre le nazisme, c'est porter atteinte à la mémoire de ces héros comme à celle des victimes de la Shoah. La réaction de Yigal Palmore, responsable des relations internationales à l'agence juive. Réaction donc d'Igal Palmore.
Nous avons affaire ici à quelque chose de bien plus profond, bien plus, répugnant, bien plus dangereux qu'une simple opinion politique qui peut être répréhensible, qui peut être rejetée, mais qui n'est qu'une opinion politique. Non, ce n'est pas une opinion politique, ce n'est pas une opinion du tout. C'est un sentiment profond, viscéral, de rejet raciste et d'antisémitisme. Voilà, parce que le racisme contre les Juifs, c'est de l'antisémitisme.
Igal Palmore, responsable des relations internationales à l'agence juive.
En Grande-Bretagne, deux hommes accusés d'avoir planifié des attentats antisémites à l'arme automatique.
Comparution hier devant un tribunal britannique pour Walid Sadawi et Amar Hussein. Un troisième homme est accusé de ne pas avoir divulgué des informations sur leur projet d'attentat. Ils étaient inspirés par le groupe de l'État islamique. Ces hommes comptaient aussi s'en prendre à l'armée et aux forces de l'ordre britanniques.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 26 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et c'est l'heure de retrouver notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine, Eva.
Et Pascal, on revient avec vous sur les tensions entre Israël et l'Égypte par rapport au terminal de Rafah.
La situation se tend entre le Caire et Jérusalem et c'est l'opération de Tsahal à Rafah qui est au cœur de la crise. Depuis que l'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du terminal frontalier de Rafah, l'Égypte a fermé son côté du terminal, bloquant du même coup l'entrée de marchandises et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui transite pour une large part via la frontière égyptienne. Et depuis, Israël et l'Égypte se renvoient mutuellement la responsabilité de la situation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a contacté hier ses homologues britanniques, allemands et italiens pour qu'ils demandent à l'Égypte de rouvrir le poste frontalier et expliquer que ce n'était pas Israël qui était responsable du blocage. Israël déforme les faits, a répondu le ministre égyptien des Affaires étrangères. Samer Choukri accuse en retour Israël d'être à l'origine du blocage, dû, selon lui, à l'escalade injustifiée engagée par Israël, ajoutant que l'Égypte déclinait toute responsabilité sur la crise humanitaire qui pourrait s'en suivre. Il y a 3 semaines, soit une quinzaine de jours avant le lancement de l'opération, le chef d'état-major de Tsahal et le directeur du Shin Bet s'étaient rendus au Caire pour discuter avec leurs homologues égyptiens des plans de Tsahal, expliquer qu'il s'agirait d'une opération ponctuelle et limitée et qu'Israël aviserait l'Égypte à l'avance du lancement de l'opération. Mais les Égyptiens n'ont pas du tout apprécié la diffusion de vidéos prises par des soldats de Tsahal et qui montraient l'organisation à l'intérieur du terminal quand les premières troupes y ont pénétré. Mais au-delà de ce mouvement de mauvaise humeur, se profile une crise plus sérieuse. Selon le Wall Street Journal, l'Égypte étudierait une réduction de ses relations diplomatiques avec Israël, y compris le rappel de son ambassadeur. Depuis le début de l'offensive de Tsahal à Gaza, l'Égypte redoutait que la progression des troupes israéliennes vers le sud ne fasse déborder le conflit sur son territoire. Il faut rappeler que l'Égypte est le seul autre pays à avoir une frontière avec la bande de Gaza, qu'elle avait d'ailleurs occupée jusqu'en 1967. Depuis, l'Égypte a conservé des liens particuliers avec le territoire côtier, liens qu'elle a maintenus même quand les islamistes du Hamas y ont renversé le régime de l'autorité palestinienne en 2007, car il faut rappeler aussi que le Hamas est une branche des frères musulmans qui sont les ennemis jurés du régime du président Abdel Fattah al-Sissi. Israël a eu beau assurer qu'à aucun moment il ne franchirait la frontière égyptienne dans ses combats contre le Hamas, l'Égypte est convaincue qu'en cas d'offensive de grande ampleur à Gaza, à Rafah, le Hamas tentera de s'en prendre à la barrière de sécurité entre le sud de Gaza et l'Égypte pour faire passer des réfugiés palestiniens vers le Sinaï. Et le Caire ne veut surtout pas que ce scénario se réalise et préfère en reporter à l'avance toute la responsabilité sur Israël. L'Égypte escompte maintenant rallier les pays arabes, les pays occidentaux, à commencer d'ailleurs par les États-Unis, pour qu'ils contraignent Israël à stopper son opération à Rafah.
C'était donc notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, que vous retrouverez bien sûr cet après-midi dans le 14-15 de l'info sur Radio G, le grand journal présenté par Steve Nadjar.
Et quant à vous, Eva, on vous retrouve à 9h30 précisément pour le rappel des titres. À tout à l'heure.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec le Collège TIGVA. Nouveau, ouverture d'un collège bilingue à Boulogne pour la rentrée, le Collège TIGVA. Renseignements au 01 49 23 73 41 ou sur collegetigva.com. Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J. Il est 9h10 sur Radio J et je vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie. Tout de suite, je vous dis un mot du temps avec un temps bien agréable ce matin. 14 degrés déjà sur notre capitale. On attend 20 degrés sous un ciel légèrement nuageux. Je vous le disais hier, la pluie, et je vous le disais également, revient. Elle revient demain. Demain, jeudi, mais avec des températures assez semblables. Hein. 10 degrés le matin, 19 degrés l'après-midi pour la journée de demain. Et puis le soleil à nouveau rejaillit à partir de vendredi. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas aujourd'hui sur Paris et sa région parisienne. On va partir en Israël à présent avec sans surprise pas mal de beau temps pour les trois jours à venir et des températures qui vont monter jusqu'à 25, 26 voire 27 degrés pour vendredi qui arrive. On a déjà 21 degrés sur Tel Aviv et Jérusalem. Alors que se passe-t-il sur la capitale israélienne? Eh bien c'est 17 degrés ce matin en ce moment et nous irons jusqu'à 23, 24 degrés pour cet après-midi et tout cela sous le soleil demain et après-demain également.
Radio J.
Le 9-10, le 9-10, Léa Moscona.
Les transports en commun avec des perturbations et des ralentissements. On a notamment la ligne de métro 3 qui est perturbée sur l'ensemble de la ligne en raison d'une panne électrique. Vous avez également des ralentissements pour la ligne de métro numéro 8. Ce trafic reprend mais reste encore bien au ralenti sur l'ensemble de la ligne en répercussion d'un bagage oublié à Pointe du Lac. Et puis enfin, des perturbations pour les RER, RERC, RERD, RERE également. Et enfin, on termine avec, j'allais dire, les premiers de la classe sont toujours présents, hein, ces ralentissements transiliens R et le tram 12 Express.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
L'air du temps ce matin avec l'actu culturelle de Maya Brodsky qui est avec nous. On a ce grand plaisir de la retrouver. Bonjour Maya.
Boker Tov Léa.
Maya, on vous connaît bien sur l'antenne puisqu'on vous retrouve tous les vendredis à 9h10 pour un jour une synagogue. Mais vous êtes également musicienne et artiste, peintre et vous aimez tellement l'art que vous avez ouvert également une galerie virtuelle. On va en parler dans un instant. Hein. C'est une expo virtuelle et en direction d'Israël précisément. Vous nous direz pourquoi, comment, où voir cette expo dans un instant. Mais avant, place à la musique, Maya, puisque vous êtes concertiste et au CEJ le 18 juin qui arrive. Hein, c'est dans encore quelques semaines. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Le temps de se préparer à venir, de réserver les billets de train, parce que j'attends tous les auditeurs de Un jour une synagogue qui auront un petit cadeau s'ils arrivent à venir.
Oh, que c'est gentil, c'est charmant. Alors,
j'aurai le plaisir de les rencontrer.
Absolument. Alors, un concert, c'est de la musique classique, hein, c'est votre, j'allais dire, votre dada, la musique classique, et vous avez concocté un joli programme pour ce 18 juin au CEJ. Parlez-nous de ce programme.
Oui, tout à fait. Mais il y a aussi un lien avec une synagogue, puisque le concert aura lieu dans la synagogue du CEJ. Donc, il y a un lien. Et oui, ça sera un concert un petit peu en hommage au salon qui existait à l'époque de Chopin et de Liszt, où il y avait une ambiance très intellectuelle. Et il y aura du piano, mais en même temps, par exemple, je vais jouer du Chopin de Liszt. Et après, je vais expliquer un petit peu les événements culturels, politiques qu'il y avait autour de ces musiciens à cette époque-là. Parce que un compositeur, effectivement, quand on compose, c'est assez pulsionnel, hein, c'est l'inspiration. Mais on est quand même, tout artiste est inspiré par les événements de sa vie aux alentours.
Oui, on imagine, donc là, et ça c'est assez, alors là Maya, c'est assez original, j'allais dire, peut-être pas, vous allez me le dire, mais d'associer à la fois histoire de la musique et le concert.
Voilà. Et donc là, il y aura, par exemple, on va faire Chopin liste, après, il va y avoir d'autres compositeurs, et après, il y aura une partie improvisation sur des thèmes judaïques, avec du violon, et ça sera un petit peu la surprise. Et il y a aussi des raves qui ont écrit des musiques, donc du coup, on les jouera ce jour-là.
Et d'où l'importance de jouer aussi avec, j'imagine, beaucoup d'émotions dans une synagogue.
Ah ben oui, évidemment. C'est une inspiration, il y a un soutien, c'est chaleureux,
justement,
c'est comme un salon en fait.
C'est ça, justement, le lieu, du lieu où l'on interprète, où l'on présente un concert, ce lieu-là a une influence sur
énorme,
le concert.
Ah oui, énorme, parce que en fait, chaque salle a une réverbération bien particulière. Quand j'ai enregistré mon disque dans le...
Le studio.
Lors de l'enregistrement, dans le studio d'enregistrement, merci. Le preneur de son, en fait, pouvait choisir les réverbérations de différentes salles. C'est-à-dire qu'on m'a enregistré, mais ensuite, pour améliorer l'écoute et le son, on a choisi la réverbération d'une certaine salle de concert.
C'est beau, hein. Alors justement, cette synagogue, juste une petite aparté, sa réverbération est particulière dans cette synagogue.
Elle est magnifique. L'acoustique est exceptionnelle. Ah, vraiment, c'est une réussite architecturale. On en parlera certainement un vendredi matin.
Bien sûr.
Mais vraiment, c'est...
Elle est déjà de toute beauté. Côté, hein, avec le bois qui rend chaleureux cette atmosphère. En tout cas, on va rappeler, on le donnera bien sûr un vendredi matin, on rappellera la date de ce concert, hein, le concert donc au CEJ, le 18 juin, c'est une date tout à fait particulière, le 18 juin, ce sera l'appel à la musique classique de Maya Brodsky, donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors je vous propose, Maya, si vous le voulez bien, de vous écouter justement dans cette interprétation de Liszt, n'est-ce pas?
Voilà, rêve d'amour.
Rêve d'amour. De couper. Oui. C'est difficile.
J'ai juste envie de vous dire une chose. La satisfaction de pouvoir transcender la technique pour arriver à partager une émotion avec les auditeurs et les spectateurs qui auront le plaisir de venir. C'est dû quand même à énormément d'entraînement, parce qu'on oublie toujours que la musique, ça se fait avec les mains, et que les mains, c'est des outils, et que ces outils, il faut les muscler. Et avant d'arriver à muscler tous les muscles de la main, parce qu'il y en a énormément, il faut énormément s'entraîner.
Alors ça, c'est un appel aux enfants, hein. On est mercredi, des petits qui écoutent, qui ont leur leçon de musique.
Oui, absolument. Non, mais parce que, si vous voulez, moi j'ai la satisfaction aujourd'hui, après avoir énormément travaillé, j'ai un moment, j'ai fait 10 heures de piano par jour, donc toute mon enfance et mon adolescence, mais le plaisir d'oublier les mains aujourd'hui et de ne penser qu'au toucher de la touche du piano et au son que ça va transmettre à la personne qui écoute et ça va toucher son cœur en fait, ça c'est finalement ça me...
C'est de la magie, hein. Il y a une part de magie.
Et si vous voulez, après toutes ces heures d'intenses efforts, Eh ben, c'est beau parce que je suis contente au moins d'avoir réussi ça. Parce
et
que
oui.
Pour moi, c'était vraiment un objectif quand j'étais enfant. Je voulais absolument arriver à ça et j'y suis un petit peu arrivée parce que je ne suis pas
Horowitz ou. Ce qu'on va dire, en tout cas, que le 18 juin, ben, on va, puisque les enfants peut-être nous écoutent avec leurs parents ce matin, puisqu'on est mercredi, on va les pousser à aller aussi écouter des concerts et le vôtre en particulier le 18 juin, parce que le travail paye en matière musicale, il faut le savoir, il faut le vivre. Oui, c'est dur, on travaille plusieurs heures, et puis arrive ce bonheur intense qu'on écoute à travers vos doigts dans ce rêve d'amour de Liszt, ce bonheur intense qu'on transmet. Alors je vous propose, Maya, de rester avec nous, on va marquer une petite pause justement, et vous êtes une amoureuse de la culture, hein. Je le disais à l'instant, il y a aussi la part artistique, peintre de votre personnalité, et on va parler de cette exposition virtuelle pour Israël dans un instant, c'est juste après les réclames.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Radio J.
Le 9-10. Léa Moscona.
Les doigts de Maya Brodsky qui est avec nous ce matin dans cette ère du temps spéciale sur la culture. Alors, autre ère au programme de ce concert du 18 juin. Maya, vous êtes toujours avec nous.
Oui,
alors, parlez-nous quelques mots peut-être sur ce morceau.
Alors ça, c'est des musiques qui ont été écrites par Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est très doux, c'est très beau, c'est très inspiré.
Inspiré par qui d'ailleurs? Par quel type de compositeur?
Ah, ça, je pense qu'il était inspiré par Hachem.
comme elle sait répondre.
D'apporter la joie, parce que
oui.
La joie est importante pour lutter contre l'obscurité. Donc c'était un petit peu sa philosophie. Donc,
et c'est d'actualité.
C'est complètement d'actualité.
Absolument.
D'où l'exposition.
L'exposition
faisons avec la galerie Kfarim Brodsky, et c'est vraiment pour soutenir Israël
en ce moment, absolument. Donc Galerie Brodsky qui propose cette exposition virtuelle, c'est à partir de demain.
Jusqu'au 20 juin.
Une exposition sur le site. Donc dites-nous un petit peu ce que c'est qu'une expo virtuelle.
Alors, une exposition virtuelle, c'est en fait sur le site à partir du 20 mai, c'est-à-dire lundi, vous pourrez voir des tableaux, et puis vous pouvez les acheter si vous le souhaitez, et une partie sera reversée pour aider les familles qui ont été déplacées, les soldats, enfin pour soutenir Israël, et sur une partie du don, vous pouvez avoir un serfa. Voilà. C'est bien parce que c'est une façon, même de votre bureau, en un clic, hop, voilà.
Alors,
mais c'est des grands artistes hein, quand même, parce que parmi les artistes, il y a un photographe qui s'appelle Marc Israël Selem, qui est le chef photo du Jérusalem Post. et qui suit de très près les événements. Et donc, par exemple, il y a une photo où il est avec la Navy devant Gaza, juste avant...
Et on peut considérer que ce sont des photos d'art, hein, parce que ce sont des photos, un reportage de guerre, hein, pour Marc Israël Selem, qui est sur le terrain, qui prend énormément de risques. Mais c'est également de l'art, parce que la prise de vue est particulière.
Absolument, Léa. C'est-à-dire que dans l'objectif du photographe, il y a derrière l'œil, devant la prise de vue, mais l'angle change tout. Donc il y a des lignes de fuite, il y a vraiment à chaque fois, à chaque photo, je trouve, chez lui, il y a une esthétique qui fait que c'est... Ça transmet beaucoup de choses.
Mmh. Donc, on va pouvoir découvrir ces photos de Marc Israël Selem.
Voilà, il y a aussi une photo que j'ai inclue, puisque c'est bientôt Lac Baumer. Donc, en fait, Lac Baumer, c'est les feux. Mmh. Donc, il y a une photo qui est absolument magnifique, puisqu'il y a un feu, c'est avec un contre-jour, un contre-nuit, on va dire.
Oui.
Voilà, et ça, c'est encore une très, très belle photo.
Et c'est une prouesse, hein, au niveau photographique, me semble-t-il, de photographier un feu.
Et alors, il y a un artiste qui s'appelle Sham Tov Ben Shlomo, qui, lui, fait principalement des enluminures, mais qui a vraiment un très, très grand talent. Et donc, il y a un de ses tableaux que j'ai choisi, parce que il y a... on voit, en fait, des épées et en même temps un rouleau de Torah. Et je trouve que ça symbolise notre combat aujourd'hui, actuel.
Mmh.
Voilà. Et après, il y a aussi un artiste qui s'appelle Boris Dubrov, qui, lui, alors là, pour moi, ça, je déclare que c'est un génie. Enfin, c'est personnel, mais je pense que je suis pas la seule à le penser.
Mmh.
Parce qu'en fait, il a travaillé dans sa jeunesse en tant que restaurateur de tableaux en Russie. Et puis ensuite, il a commencé à peindre des choses très figuratives, très exceptionnelles, avec une émouna et des tons dans les ocres et tout, absolument sublime. Et là, nous avons un violon en bleu peint au couteau. Alors quand on dit peint au couteau, ça veut dire que vous prenez une espèce de spatule, on va dire en métal, et vous étalez la peinture avec des petits coups, et ça donne un relief et une expression différente du pinceau. Voilà, donc c'est une technique différente, mais ça donne une expression qui est très forte.
Un relief, de la matière.
Oui. Voilà, de la matière. Et j'ai choisi, tous les tableaux ont une dominante bleue. Voilà. Maintenant, si une personne veut un tableau différent, évidemment, on peut en discuter.
Mais en tout cas, l'exposition que vous avez choisie, c'est une exposition aussi à thème sur Israël. En cette période, nous venons de vivre le Yom Ha'atzmaout. Alors, il y a bien sûr ce thème prédominant, le bleu, et puis les photos de ce qui se passe actuellement en Israël avec les photos de Marc Israël Selem. Et bien évidemment, donc on va rappeler que la vente, une partie de la vente sera destinée à des familles nécessiteuses.
Il y a juste un dernier mot concernant cette exposition. Il y a une photo de Danny Gold et je tiens à mentionner que grâce à lui, nous protégeons. Nous protégeons tous, voilà, parce que c'est l'inventeur du dôme de fer et il y a une très belle photo et je mets la photo dans l'exposition.
Alors, toute cette exposition, donc à partir de lundi, exposition virtuelle à la Galerie Brodsky. Donc, on va tout simplement sur Internet et on tape galeriebrodsky.com. Je ne me trompe pas.
Voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà, ce sera un bon moment.
Un dernier mot, Maya, avant de nous séparer et puis de se retrouver, puisqu'on se retrouvera toutes les deux vendredi pour un jour une synagogue, hein, comme tous les vendredis à partir de 9h10, où vous nous faites un peu voyager dans le monde, hein, il faut bien le dire, et puis vous nous présentez ces synagogues.
J'adore voyager. Voilà. Je voyage moins, mais j'ai beaucoup voyagé.
Alors justement, là dans une expo, il y a une expo à venir, on dit juste quelques mots, mais pas encore tout, parce qu'on on attend.
Voilà. Hein. Il y a 20 ans, je voulais faire un journal pour faire une vente aux enchères pour aider les enfants malades.
Mmh.
Et j'avais contacté des personnalités pour participer. Donc, j'avais écrit spontanément au Dalai Lama qui spontanément m'avait répondu. C'était assez inattendu. Et puis finalement, le projet ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, dans ce temps de guerre où vraiment il faut lutter pour la lumière et dont nous allons sortir vainqueurs, le sujet de l'expo au début devait être judaïque. Et puis finalement, il faut on l'a tourné un peu plus vers la paix. Et donc, je vais ressortir ce dessin que j'avais du Dalai Lama pour l'exposer dans cette exposition. Extra. Mais ça sera entouré aussi de personnalités publiques, d'écrivains, d'acteurs qui vont tous écrire et faire un dessin sur le thème de la paix.
Alors, c'est donc, une expo à venir. On en reparlera précisément avec vous, Maya. Je vous remercie et je vous souhaite
merci
une bonne journée. Et on se retrouve vendredi. Merci. Au revoir.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Excellente matinée à l'écoute de Radio J, les 9h30 et tout de suite le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, ce 222e jour de guerre contre le Hamas, avec la mort d'un nouveau soldat israélien annoncé ce matin, le sergent Ira Yair Ginspan, 19 ans. Il est tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza et toujours sur le front sud. 14 soldats de Tsahal ont été blessés, dont 4 grièvement dans des combats avec des terroristes du Hamas. Par ailleurs, l'aviation israélienne a mené un raid contre une école de l'UNRWA dans lequel se trouvait un centre de commandement du Hamas. Et cette nuit, l'armée israélienne a intercepté 2 drones venus de l'Est. Ils ont été abattus avant de franchir la frontière. Selon Tsahal, il y a des otages dans la région de Rafah. C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'est de Rafah. Selon le contre-amiral Daniel Agari, les opérations à Rafah, Jabalia et Zetoun ont déjà permis ces derniers jours d'éliminer plus de 100 terroristes. L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale. Jake Sullivan a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression que sur des normes internationalement reconnues, c'est-à-dire reposant sur une intentionnalité de détruire tout un peuple. En France, le mur des justes du mémorial de la Shoah vandalisé à Paris, des mains rouges y ont été taguées, une plainte a été déposée. Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens, est mis en cause pour leur connotation liée au lynchage de 2 soldats de Tsahal en 2000. En Grande-Bretagne, 2 hommes accusés d'avoir planifié des attentats antisémites à l'arme automatique. Ils ont comparu hier devant un tribunal britannique. Walid Saadawi et Amar Hussein sont accusés de planification d'attentats. Un 3e homme, lui, est mis en cause pour ne pas avoir divulgué leur projet.
Merci Eva, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le journal complet.
Léa Moscona.
Elle reste avec nous, on marque une pause dans un instant. Délivrer des enfants avec Nathalie Zilberman. Mais qui sont les adolescents? La réponse dans un instant.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Léa Moscona.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Délivrer des enfants avec Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie.
Bonjour Léa, comment allez-vous?
Je vais bien et vous-même?
Bah écoutez, la semaine dernière, on a eu une émission énergique avec Ilana. Ça a été un peu différent de votre ligne éditoriale, on va dire.
Ah, bah oui, moi, c'est plutôt la douceur. Quoique. Alors, qui sont les adolescents, Nathalie? C'est votre thème ce matin.
Alors, imaginons que nous ayons 2 adolescents, on va dire Julie et Stéphanie, par exemple, qu'elles rentrent en librairie et qu'elles cherchent quelque chose qui pourrait, en tout cas, les animer et susciter leur intérêt pour de la lecture. Mmh. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai donné à bon escient, vous voyez, deux noms de jeunes filles. Hein. Mmh. J'ai pas donné de noms de garçons. Pourquoi ? Parce que les livres pour adolescents aujourd'hui se tournent énormément sur les filles, moins sur les garçons. On a eu, vous savez, hein, l'époque Harry Potter. Et je regrette qu'il n'y ait plus de grands héros adolescents garçons pour faire quelque chose.
Comment ça s'explique, ça ? On l'explique pas, peut-être ?
Ben, on est dans l'air du temps, on essaye, voyez, on essaye de privilégier le jamais sans elle, E2LES, mais...
À ce point ? Et c'est pour ça, vous savez, je sais pas, c'est votre explication.
C'est un peu mon point de vue parce que les livres, on parle de l'émotion, on parle de combat. Et c'est vrai que il y a beaucoup de filles. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant parce que vous savez, quand on était enfant, nous on avait Martine et Caroline, donc c'était peut-être d'un autre temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de s'identifier à des héros. Et à des héroïnes. Et je pense que les éditeurs se trompent énormément en ne donnant la parole qu'en grosse partie, vraiment, qu'à des filles. Mm-hmm. Et là, pour moi, ça pose problème. Parce que les garçons avec lesquels on a vraiment de difficulté à amener la lecture, à amener le narratif, à développer, vous voyez, une passion qui va dépasser les mots ou les histoires. Bon, on en trouve peu. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me gêne. Donc on va commencer tout de suite déjà avec ça parle à tout le monde, ça s'appelle Sacré Dieu. C'est aux éditions, c'est une histoire complète. C'est vrai que pour les adolescents, on a du mal à comprendre ce qu'est Dieu, ce qu'est la religion. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et malheureusement, on n'en parle pas par le bon prisme. Donc c'est Frédéric Lenoir et Annelise Combeau qui nous expliquent tout ce que vous avez toujours aimé savoir ou voulu savoir sur Dieu. Et c'est une bande dessinée puisque c'est chez Rue de Sèvres. C'est vraiment accessible à tous. Ça explique et surtout ça développe chez l'adolescent. Vous voyez, beaucoup de réflexion et en même temps beaucoup d'intérêt. Donc on va poser des questions, on va s'interroger et en même temps on va essayer vraiment de dialoguer avec l'autre et c'est aussi important. Donc c'est aux éditions Rue de Sèvres. On a également les 10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse de Clémentine de Pontavis et Alice Dussautour aux éditions Glénat. Là aussi, hein, c'est pas toujours simple de parler d'identité sexuelle, de genre, de violence, de la vraie vie, de sexe, de plaisir, parce que les parents, ils sont aussi des problèmes, hein, ils se bloquent et il y a des sujets qu'ils n'abordent pas. Donc, il faut aller piocher ailleurs. Et là, on va se combattre 10 idées reçues sur la sexualité pour justement aborder et discuter de tous les sujets. Et je pense que c'est très important. Ensuite, on aura chez Casterman un livre qui s'appelle Émotive. C'est Voyage à bord d'un vaisseau mental. Pourquoi ce livre est important de Sandrine Martin ? Vous savez, depuis quelques années maintenant, on parle de la santé mentale des gens, des adultes. Et on s'aperçoit que l'adolescent est touché par ce genre de problème. Alors, parce que on connaît tous les problèmes qu'il peut y avoir à l'école, le harcèlement, de ne pas trouver sa place, des difficultés à l'école. Et donc, si on va découvrir ce vaisseau mental, on pourra évidemment voir comment la vie va s'ouvrir et comment les choses vont se déblayer au fur et à mesure que l'on avance. Et c'est tellement bien fait parce que on nous prône de l'optimisme, de la joie, du calme. Vous savez, un peu de bienveillance, ça fait toujours plaisir. Et on n'a pas toujours les bons mots, nous, en tant que parents, pour en parler. Donc, c'est vraiment
compliqué. Est-ce que des psychologues, par exemple, prennent part à la rédaction de ces livres où vous parlez beaucoup de la vie des adolescents, de leurs émotions, leurs sentiments ?
Oui. Alors, beaucoup de psychologues. Ou alors, vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal d'instagrammeurs, d'influenceurs qui deviennent des spécialistes et qui amènent leur pointe un peu de professionnalisme et voilà aussi. D'expérience. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait sous la forme de bande dessinée, donc ça c'est ça c'est très important. Ensuite, on a un livre qui s'appelle Césure de Laure Garanchet et on a cinq femmes qui partagent leur désir d'ailleurs avec les dessins de Joyce Colson, Limsella, Caroline Perron, Juliette Taka et Lou Zagon. Et les couleurs de Sandra Violo. C'est un livre qui va à la rencontre de ses racines. Donc on va nous emporter en Inde, en Amazonie, en Corée, vous savez, un peu dans ce monde nomade. Et on va y découvrir le parcours de d'Emilie, Laurence, Elena et Maëlys et Victoire, puisqu'on aura aussi un passage vers la Norvège. Et on va y découvrir d'où on vient, où l'on va et pourquoi ce parcours a été chaotique.
Souvent, ce sont des questions que les adolescents se posent.
Oui, ma chère Léa, quand on arrive à l'adolescence, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire, on quitte la petite enfance pour arriver dans le monde des adultes. Et c'est toujours difficile parce que nous, en tant que parents, on leur dit « Bon, allez, c'est bon, d'accord, tu sais tout, tu connais tout. » Et quelquefois, on a l'impression que c'est de l'arrogance ou de l'insolence. Essaye de vouloir arriver comme ça en disant « Oui, moi, j'ai des connaissances, mais stop, en tant que parent, arrêtez parce que moi aussi, j'ai envie de montrer ce que j'aime faire. » Et c'est pas toujours évident. Donc, grâce à ces livres, vous allez un peu les découvrir quand même. Un autre livre, « Il n'y a pas d'âge pour changer le monde », c'est 15 destins d'enfants qui ont marqué le cours de l'histoire de Caroline Louard et les illustrations de Sébastien Chéré aux éditions Privat Jeunesse. Donc, vous avez Jeanne d'Arc, vous avez Guy Moquet et j'en passe. On parle de tout, on parle de fascistes, de résistance, de militants, de LGBT. C'est 15 destins hors du commun. Et c'est aussi pour faire comprendre aux enfants que même quand on est adolescent, on peut avoir aussi des réflexions et des intérêts. Et puis, j'ai entre les mains des romans, sincèrement, qui nous parlent de tout. Donc, « Nos corps invisibles »,« Souviens-toi de nous toujours » et « Girls Bazaar ». Encore une fois, vous voyez bien, les couvertures hein, sont... On parle de suicide, on parle d'amour, on parle de bidonville, on parle d'invisibilité parce que les corps ne sont pas, évidemment... On veut pas tous être filiformes, on peut pas parfait. Tous avoir des corps parfaits. Donc ces livres sont très importants, que ce soit ces slaloms, Cours toujours et chez Scrinéo. On a cette collection chez Ondo Girls, c'est une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes. Ça encore, ça c'est un sujet qui est très important pour les adolescents parce que dès le plus jeune âge, il faut qu'elles aillent chez le gynéco. Et les parents leur parlent toujours avec un certain regard en disant oui, tu vas avoir mal la première fois, ça va pas être évident, mais il faut les laisser vivre aussi leur expérience. Et c'est à nous aussi de comprendre. Donc c'est chez le courrier du livre.
En tout cas, tous ces livres là que vous présentez parlent quand même d'un certain mal-être de l'adolescent. Ils posent des questions qui sont des questions essentielles pour les ados, mais souvent derrière ces questions il y a une souffrance. C'est pour ça que peut-être cette lecture là elle est essentielle de la poser sur le bureau de l'adolescent sans plus.
Alors pas seulement, sincèrement Léa, pas seulement parce que c'est très important et c'est pour ça que il faut accompagner les enfants dans leur lecture et même quand ils sont grands.
Les enfants ne se laissent pas forcément approcher à l'adolescence.
C'est-à-dire que oui voilà, c'est un peu comme des animaux sauvages, je pense qu'on a cette expérience et c'est pour ça que d'abord il faut leur proposer ces petits livres qui sont sortis au prix de 3,50 €, c'est une collection qui s'appelle Halt. Faut-il en finir avec les contes de fées de Jennifer Tamas, la justice est-elle la même pour tous et comment jouir de la lecture. Ce sont des petits livres qui coûtent 3,50 €, vous leur laissez évidemment sur la table, mais tous ces autres livres, il faut absolument les lire. Et cette semaine, j'ai fait une expérience dans l'école dans laquelle je travaille et je leur ai demandé aux enfants de me dire quel est le livre en fait qui a marqué une partie de leur vie. Et il y a une petite Elsa qui m'a écrit un petit message et dont je voudrais lire. Elle m'a expliqué, elle a lu un livre qui s'appelle Les Pointes Noires. Alors, elle dit, je vais vous parler des Pointes Noires. Tout d'abord, ce roman est écrit par Sophie Noël en 2018. Donc, on est dans un orphelinat, on est au Mali. Elle découvre, cette petite fille, elle va découvrir la danse classique. Et cette danse classique va la sortir de cet orphelinat, de ce monde, un peu dans ce monde dans lequel elle est un peu en, dans un monde de marasme. Et elle va être confrontée, parce qu'elle est noire, parce qu'elle va arriver à l'opéra de Paris, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est différente, et parce que, évidemment, elle n'a pas d'autre modèle vers qui se tourner. Donc, il va avoir des moqueries, du racisme, mais en même temps, elle va leur montrer, leur prouver à quel point on peut être différente, tout simplement différente, et réussir. Et là, on va suivre le travail et les espoirs d'Ève qui tient à son rêve et impose sa différence. L'auteur Sophie Noël dresse un beau portrait d'une artiste battante et déterminée qui pourrait inspirer bien des passions chez les petites filles.
Bon,
comme alors, je le disais là, ce matin, tout à l'heure, encore une fois, les filles sont mises à l'honneur.
Bon, et bien voilà, pas mal de sorties pour les adolescents. Merci Nathalie, et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, pour parler des Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques, évidemment, ça approche à grands pas.
Léa Moscona.
Radio J.
Radio J.
Et c'est l'heure des pieds sur terre avec Jean-François Strouve. Bonjour Jean-François.
Eh bien bonjour Léa.
Alors
bonjour
aujourd'hui,
Nathalie. Bonjour Jean-François.
Jean-François, vous avez décidé de nous parler de reconstruction.
Oui, hier c'était Yom Ha'atzmaout. On reste un peu dans la fête quelque part, dans la mesure où c'était une journée un peu moins festive que les autres années. On avait tous en tête les 132 otages, on avait tous en tête tous les morts depuis le 7 octobre, mais il y a une sorte d'atmosphère printanière liée au fait que déjà sortent des groupes de travail, des commissions, des associations, des idées de perspectives de développement de ces régions dont nous devons rappeler que la population, plus de 300 000 habitants, sont encore déplacés. Alors, concernant le Sud, des efforts sont en cours dans le pays et à l'étranger pour restaurer la verdure luxuriante et le calme tranquille du Néguev occidental.
Oui.
Et donc, essentiellement agricole, hein, c'est des communautés agricoles de la région qui sont responsables de la production d'énormément de produits alimentaires de base en Israël, parmi lesquels les pommes de terre, les tomates et les produits laitiers. À l'avant-garde des efforts de réhabilitation se trouve, alors c'est un écosystème que je voudrais décrire. À l'avant-garde se trouve une université qui est PGU, l'université Ben Gurion du Negev, du nom du premier ministre israélien David Ben Gurion et du plus grand employeur du désert du sud d'Israël qu'il aimait tant. Créée en 2017 pour faire progresser le secteur technologique dans la zone frontalière de Gaza, l'incubateur qui s'appelle South Up a annoncé l'ajout de 4 nouvelles start-up à son groupe existant de 30, donc de 27, ils sont maintenant 31, elles sont 31 start-up apportant de nouveaux développements dans le domaine des technologies médicales et agricoles pour reconstruire la scène de l'innovation. Un centre d'incubation a été installé dans la région de Shara Negev, dans le Negev, directement dans le kibbutz Nir Am, l'une des rares communautés dont la garde civile a réussi à repousser les terroristes envahissant Gaza.
Parce qu'on oublie que ce sont des régions qui ont souffert ce 7 octobre et après, et que aujourd'hui, peu à peu, il y a cette reconstruction, il y a cette reprise de l'activité dont vous nous parlez ce matin.
Absolument. Alors c'est un écosystème qui est très intéressant parce que ces gens-là, faut pas oublier que depuis les années 30, ce sont des pionniers d'Israël. Et donc, en quoi ils sont pionniers d'Israël aujourd'hui? Ils sont pionniers d'Israël dans le domaine de l'environnement.
Dans la recherche.
Dans la recherche, c'est-à-dire que on est en plein au cœur de notre sujet. Mmh. On a affaire à des gens qui ont des groupes de travail. Il y a 800 startups en Israël qui sont consacrées uniquement à l'environnement. Mmh. C'est énorme. Et donc, ces 800 start-up, il y en a beaucoup dans le Sud. Mm-hmm. Par exemple, l'un des groupes de travail qui a été créé par South Up s'appelle Beyond Plastic, au-delà du plastique. Ça nous dit tout, ça. Mm-hmm. Ça veut dire que ces gens-là, non seulement ils ont envie de reconstruire leur région après le 7 octobre, mais ils ont aussi envie de faire de cette région une région verte, une région qui soit durable, et qui soit positif sur le plan de la lutte pour l'environnement.
Dans l'objectif même de ce que voulait David Ben-Gourion.
Absolument.
Hein, c'est reverdir le désert.
Oui, mais même David Ben-Gourion avait des perspectives de dire il faut pas que ça nuise à la planète. Il faut qu'on soit en phase avec la nature. Il faut lui les grandes villes polluantes, c'était pas son truc. S'il s'est replié très vite dès qu'il a fini sa vie politique, c'est parce qu'il aimait la nature, les paysages du Néguev, la préservation des espèces protégées.
Mais de toute façon, dès la création de l'État d'Israël, il y a eu ce souci hein, de la nature, de alors la dompter, mais tout en la préservant. On a tous des images de ces kibboutz qui étaient de véritables paradis, avec cette flore tellement développée. Et bien sûr, après le chaos, aujourd'hui, c'est vraiment un travail énorme qui attend les Israéliens, hein, de reconstruction et de retrouver justement cette nature.
Cette perspective, absolument. Cette nature.
Alors, Léa, vous avez complètement raison. Moi, j'ai habité pendant quelques années dans le Néguev. Et c'était vraiment le paradis sur Terre pour moi. Alors, beaucoup plus au sud parce que j'ai habité Yotveta. Vous savez, le célèbre kibboutz qui fait des laitages et des yaourts. Et c'est vrai que
et à Yotvata, une réserve naturelle.
Exactement,
le Khaibar. Extraordinaire, le Khaibar Yotvata, c'est un endroit prodigieux. On y trouve des espèces de gazelles, d'ânes sauvages.
Oui, qui viennent du temps de la Bible.
Oui, absolument. Ils essayent de reconstituer à Yotvata la faune qui était présente à l'époque biblique. Donc on arrive et on a l'impression d'être retourné à l'époque biblique avec des paysages splendides. Et au milieu, il y a effectivement la fameuse laiterie Yotvata qui produit une bonne partie des produits laitiers du pays.
Et dans cet univers-là, on a vraiment l'impression que ce désert, qui par définition veut dire où il n'y a pas de vie, absence de vie, c'est là où j'ai rencontré le plus de vie et de vivacité. Des gens, des animaux, de la flore, de la faune, en y découvrant des espèces que je n'avais jamais vues sur Terre. Et en plus, à m'attacher à ce lieu, comme s'il m'appartenait rien qu'à moi.
Alors,
c'est la force de ce Néguev.
Je vais compléter ce que dit Nathalie, parce que le premier jour de notre lune de miel s'est passé à Yotvata. Donc on avait
marqué le miel dans le yaourt, c'est très très bon.
On avait décidé qu'on allait passer notre premier jour au milieu des ânes sauvages et des gazelles.
Ouais. On va tout savoir. Alors Jean-François, vous nous parliez de hub, hein, précisément, c'est des incubateurs. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors il s'agit d'aider, d'accompagner les startups et les groupes qui veulent évoluer vers des startups dans l'ensemble des actes professionnels. Il y a un groupe qui s'appelle CAFRI, qui donne une assistance pour accéder aux subventions de l'autorité israélienne de l'innovation et des opportunités, recevoir des aides du fonds d'impact de South Up, de la fondation Mishtalar, des communautés de kibboutz et d'investisseurs étrangers. L'incubateur est une espèce de lieu de passage où tout le monde se retrouve. On a les experts, on a les donateurs, on a les angels, les ceux qui vont aider à créer les structures.
Toutes les disciplines finalement autour d'une même question.
Et cette idée, ça permet d'accélérer. L'incubateur est un accélérateur d'innovation parce que tous les obstacles que rencontrerait un jeune groupe, hein, on imagine des jeunes qui sortent de l'armée, qui ont envie de créer leur start-up, qui ont 22-23 ans, qui se connaissent par cœur parce qu'ils ont été à l'armée ensemble, ils veulent créer quelque chose et alors ils vont se casser les dents sur chaque étape. Bah, pas du tout, parce que les incubateurs sont là et ils reposent, et ça c'est le plus essentiel, ils reposent sur l'infrastructure de l'université Ben Gurion qui va leur mettre à disposition les labos, les lieux de travail, les espaces de coworking pour pouvoir progresser rapidement. Et ça, il y a quelque chose de magique là-dedans.
Oui, il y a donc un échange, hein, il y a la communication qui est accélérée.
Et c'est même plus que de la communication. C'est fusionnel. Hein, ces groupes sont fusionnels, ils sortent de l'armée.
Mais ça, c'est un peu une méthode aussi à l'américaine.
C'est plus à l'israélien.
Ah, c'est plus à l'israélien.
C'est typique d'Israël parce que dans un groupe d'experts américains, ils n'ont pas l'expérience de cette fraternité d'armes qui leur donne tout de suite les codes de comment réagir par rapport à son proche ami quand on a passé 3 ans aux côtés d'un autre à défendre mutuellement la vie l'un de l'autre. On est capable, on se connaît par cœur et on est capable de s'entraider.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que souvent ces incubateurs sont constitués de jeunes qui se sont connus avant même le début de leur recherche et de leur activité. Donc l'armée est fait partie finalement de ce processus aussi.
Ça fait partie du processus. Ouais. C'est pour ça que je le souligne, parce que avec l'image très négative que des salopards donnent de Tsahal partout dans le monde, j'emploie volontiers ce terme fort. Nous qui savons ce que c'est que Tsahal, nous qui savons, qui connaissons ces jeunes soldats, qui en avons dans nos familles autour de nous, etc. Nous, on sait la richesse humaine exceptionnelle qui existe dans cette armée, et la capacité individuelle de ces gens et collective d'être innovant et créatif.
Et on n'oublie jamais que cette armée s'appelle l'armée de défense d'Israël.
Absolument, c'est très juste, Nathalie. Alors l'association environnementale Adam Teva Vadin, l'homme, la nature et la justice, c'est la plus grande aujourd'hui. C'est la plus grande association environnementale d'Israël.
Et qui va vers cette reconstruction. Quelle sera la tête du sud d'Israël? Alors, physionomie.
Voilà, ils veulent l'appeler Evel Tekuma, c'est zone de renaissance, au lieu du terme très péjoratif qui me déplaît profondément depuis toujours, de Otef Aza, enveloppe de Gaza, comme si la fonction de cette région c'était uniquement d'entourer Gaza, ce qui n'a présente aucun intérêt, alors que ces gens justement méritent d'être pris en compte. Et l'idée de Evel Tekuma, elle me plaît, moi, parce que elle va dire beaucoup de choses de la volonté de renaître, de la volonté de travailler ensemble à des beaux projets et de travailler, par exemple, à deux mesures qui sont essentielles. La première mesure, c'est d'une espèce d'appellation AOC des produits qui sont sortis du Sud. Et cette idée pour laquelle je me bats, moi, depuis des années, qui s'appelle le boycott. Boycott, ça veut du verbe buy, c'est acheter Kahol Lavan, acheter israélien, acheter bleu et blanc, pour contrer le boycott, boycotter les produits d'Israël. Ils seront demain, les produits du sud d'Israël, non seulement bleu et blanc, mais ils seront aussi verts. Parce que l'idée, c'est de mettre les normes environnementales les plus élevées pour ces produits-là.
Quel est le premier produit israélien en France là, que vous achetez, par exemple, souvent, quotidiennement?
Les clémentines.
Et vous, Nathalie?
J'allais dire pareil, parce qu'en plus, comme il est en orange...
Greg et moi préfèrent les avocats.
Oui, mais les clémentines au riz, je peux vous dire qu'actuellement, elles sont mais d'une douceur...
On va aller faire nos courses.
Mais tout ça, ça compte énormément. Je vais juste citer un nom. L'un des promoteurs du boycott en France, c'est un de nos amis qui s'appelle Guy Marzouk, qui achète des produits israéliens à longueur de temps et qui les offre à tout le monde. Voilà,
bon, c'est très bien, vous me donnerez l'adresse de Guy.
Moi aussi, s'il vous plaît.
Merci en tout cas pour cette belle émission. Merci Jean-François, Nathalie, et on se retrouve la semaine prochaine avec
plaisir. Avec un grand plaisir.
Merci.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona, Radio J.
14h-15h. Le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le grand journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le grand journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noa, osez le dire, est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noaosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France. France, 40 rue de Liège, Paris. mda-france.org.
mda-france.org.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Merci de votre fidélité au programme de Radio J. Dans un instant, c'est le 10h, le 10-11, précisément le magazine avec Lise Gutmann, qui est déjà à mes côtés, prête, fin prête, pour nous parler de son programme. Bonjour Lise.
Et oui, dans les starting blocks, comme tous les matins, Léa. Alors, on va commencer avec le Forum Génération Shoah, qui va se tenir ce week-end. Pour cela, deux intervenantes, en studio avec nous, Fabienne Hamson, et par téléphone, ce sera Lior Lalius-Madjan, en direct du mémorial de la Shoah. Puis on retrouvera la chronique de Jean-Claude Kupernemink et on terminera mercredi oblige avec Lynn Toubiana en direct de Cannes.
J'adore cette musique.
Voilà,
c'est
pour le...
l'ouverture.
C'est l'ouverture. C'était hier,
ah,
Léa.
C'était... Pardon, je dormais.
Comment tu
n'y
étais pas?
Non, je dormais. Pardon. Pardon, je vais regarder ça en rediff.
D'accord, replay. En tous les cas, tu pourras écouter l'émission de Lynn.
Voilà.